Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Voilà, bonjour à tous. Je vous propose une lecture dans 1 Corinthiens chapitre 10 et verset 16. Ce que je vais vous demander, vous allez choisir vous-même, mais je vais vous lire un texte amplifié de ce que nous allons voir en prédication et je reprendrai ensuite le texte classique. Alors écoutez, s'il vous plaît, et on reviendra sur le texte classique. Parce que si vous voulez faire les deux à la fois, vous allez vous perdre. Enfin, vous êtes sauvés, mais... Alors, donc, c'est en Corinthiens, chapitre 10, écoutez bien. Chapitre 10, non, c'est 1 Corinthiens, verset 10. Le chapitre 1er, ne l'ai-je pas dit ? Oh, dites donc. Je vois que ma situation s'aggrave de semaine en semaine, et on dit amen en plus. Mais je crois à la guérison divine. Il faut cependant, frères, que je vous adresse une recommandation instante, et c'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que je le fais. Vivez ensemble en bonne harmonie. Accordez vos pensées et vos paroles. Vivez ensemble le but commun et exprimez vos convictions dans un langage concordant. Ne laissez pas de scission s'introduire parmi vous, cultivez la bonne entente. Cherchez ce qui vous rapproche, essayez de voir les choses du même point de vue et adoptez une attitude commune afin de former une unité de combat indivisible. Or, qu'ai-je appris au sujet de mes frères ? Que la discorde règne parmi vous. En effet, j'ai été informé de vos dissensions par les gens de la maison de Chloé. Voici ce que je veux dire. Chacun de vous se réclame d'un chef de parti. Et l'on entend couramment chez vous, moi, je suis de Paul. Moi, je tiens pour Apollo. Et moi, je suis pour Céphas. Quant à moi, certains disent, quant à moi, je ne relève que de Christ. Voyons. Le Christ serait-il divisé ? Son corps aurait-il été disloqué ? Dites-moi donc, vous qui vous prétendez disciples de Paul, Paul aurait-il été crucifié pour vous ? Ou bien serait-ce peut-être en son nom que vous avez été baptisés ? Dieu merci, de ce qu'à part Crispus et Gaius, je n'ai baptisé aucun de vous. Au moins personne ne peut prétendre avoir été baptisé en mon nom. Ah si ! J'ai baptisé encore des gens de la maison de Stéphanas. À part cela, je crois n'avoir baptisé personne. On va aller maintenant au chapitre 3, encore deux ou trois versets. Chapitre 3, 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 3. Où il est dit ceci. Lorsque vous jalousez les uns les autres et que vous fractionnez en parties opposées, ne montrez-vous pas que vous vivez dans comme des hommes livrés à eux-mêmes ? Tant qu'il y aura parmi vous des rivalités, des dissensions et des querelles, n'est-ce pas la preuve que vous vous comportez comme tout le monde, comme des hommes irrégénérés ? Lorsqu'il y en a qui disent « Moi je suis de Paul », d'autres « Moi de pour Apollos », n'agissez-vous pas comme des gens du monde de manière trop humaine, toute humaine ? Après tout, qui sont donc Apollos et Paul ? Des serviteurs, rien de plus, qui vous ont amené à la foi, chacun d'eux accomplissant la tâche particulière que Dieu lui a confiée, suivant les capacités qu'il lui a été données. Moi, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu seul a fait croître. Or, en fin de compte, tout cela dépend, non pas de celui qui plante, ni de celui qui arrose, mais de Dieu qui donne la croissance. Planter ou arroser revient au même. Et puis une dernière citation, toujours dans le chapitre 3 et le verset 21. C'est la conclusion. Que personne ne mette donc sa fierté dans des hommes, en se glorifiant d'avoir eu tel ou tel maître, car tous sont à votre service. Que ce soit Paul ou Apollos ou Céphas, tout vous appartient. L'univers entier est vôtre. La vie et la mort, le présent et l'avenir, tout est à vous, mais vous, vous appartenez qu'au Christ, comme le Christ appartient à Dieu. Alors voilà pour cette lecture. Je voudrais tout de suite, pour vous rassurer, que ce n'est pas le cas que je trouve dans l'église de Saint-Nazaire. Les divisions, les dissensions, etc., etc., etc. Mais ça existait à Corinthe, et de quelle manière? Mais je voudrais vous tenir ces propos, non pas pour le temps présent, parce que moi je bénis le Seigneur de nous connaître les uns et les autres et d'apprécier. Et ça, c'est à dire. Mais je voudrais quand même envisager l'avenir, frères et sœurs, et prévoir l'avenir. Parce que vous savez que c'est comme dans le monde. Vous savez, la paix, elle est très fragile. Les choses peuvent changer du jour au lendemain. Et je pense qu'il faut être véritablement imprégné laisser imprégner notre vie de l'Esprit de Dieu. Parce qu'il nous conduira toujours dans la vérité, dans l'amour. Ou l'amour, la charité. Et ça, c'est important. Vous avez remarqué avec moi, et j'ai fait ce petit préambule, simplement, vous avez remarqué avec moi, certains chrétiens dans l'église de Corinthe disaient « Mais moi, je suis de Paul, il n'y a que Paul !» D'autres disaient « C'est Apollos. » « Mais je ne vois que par Apollos. » À part lui, les autres, pas grand-chose. Et puis, certains diront « Moi, je suis de Pierre, traduit par Céphas, l'apôtre Pierre. » On va voir. Et puis, d'autres disaient, et là, on va voir une subtilité, « Moi, je suis que de Christ. » Et vous allez voir que c'est pas très positif quand on dit « Je suis que de Christ. » J'ose, ce matin. Je prends des risques. Comme aujourd'hui, dans le monde, on est citoyen. Certains diront, moi, je ne vois que par François. D'autres, je dirais, mais Marine, c'est un océan. D'autres diront, Emmanuel, attention! Certains diront, mais moi, Jean-Luc, il est proche de mon cœur. D'autres, peut-être, penseront qu'il n'y a que Benoît qui compte. Ça fait sourire, hein? Mais que dans le monde l'on dise cela, ça peut se comprendre. Mais que dans l'Église, moi, je suis de ceci, de cela, etc., etc., alors c'est là qu'il y a un problème. C'est un langage qui ne devrait jamais exister. Heureusement que Paul l'a vécu pour nous dire, attendez, il y a un écueil, et il y a un danger, et c'est grave. Alors en ce moment, nous sommes entre nous, mais il y aura d'autres pasteurs qui viendront. D'autres sont déjà passés. Moi, je suis Alain le 8e ici à Saint-Nazaire. Vous rendez compte, c'est un titre royal. Alain le 8e. Eh oui. Mais il y en aura d'autres, et moi je souhaite que ça continue et qu'il y en ait encore beaucoup. Ça sera la preuve que la présence de Dieu est agissante et opérante, et c'est une bénédiction pour cette ville. Non pas dans la personne qui dirige l'Église, mais dans la présence du Seigneur et la prédication de sa parole. Je voudrais dire que, pour éviter l'écueil de Corinthe, comme les choses nous ont été dites, il faut rappeler une chose essentielle, mes frères et sœurs, c'est que la prédication, ce sont tous des prédicateurs, que la prédication n'est pas faite pour le prédicateur, mais le prédicateur, l'est pour la prédication. Rien de plus. N'inversons pas les rôles. Alors, on va prendre en décomposé, l'étonnant de celui-ci, où chacun avait son héros, son chouchou. Enfin, on peut multiplier toutes les comparaisons si on veut. On va commencer par Paul, parce que Paul, c'est lui qui écrit. Paul est arrivé, et le texte nous rapporte dans Actes, que Paul a passé 2 ans et demi à Corinthe pour former l'Église. C'était lui le pionnier, c'était lui l'apôtre. C'est lui qui a annoncé l'Évangile dans les premiers temps, et là, les Corinthiens ont entendu l'Évangile et se sont convertis par la prédication de Paul. Alors certains disaient, moi, je suis de Paul. C'était donc ses partisans, c'était ses supporters, et ils ne connaissaient personne d'autre, même s'ils en ont eu après. C'était peut-être ceux qui tenaient ce langage, ce qu'on pourrait appeler les nostalgiques du bon vieux temps. comme nous dans nos églises, nous avions des pionniers, nous en avions, ils disparaissent les uns après les autres. Et c'est vrai qu'ils ont marqué profondément l'église. Ils ont fait des sacrifices énormes. C'était les temps héroïques, moi je l'ai toujours entendu, ceux qui m'ont précédé, dire, mais c'était les temps héroïques, ils n'avaient pas de quoi manger, ils avaient à peine de quoi se loger. Ils ont fait des sacrifices inouïs avec des familles nombreuses, etc., etc. Ils ont sué sang et eau. Et aujourd'hui, s'il y a des églises dans nos villes, dans nos régions, dans notre pays de France et bien ailleurs, c'est parce que véritablement, ils ont été des apôtres. C'est quelque chose et on peut leur tirer le chapeau bien bas, parce qu'autrement, on ne serait pas là naturellement. C'était les débuts donc, qui ont été vraiment des débuts difficiles et beaucoup d'affection pour le pionnier ou pour les pionniers. On l'a connu pour les plus anciens d'entre nous, vous vous souvenez, les premiers qui ont fondé ici. Hein. Eh oui. Alors, on a toujours un souvenir très attendri, naturellement, et c'est normal, et il le faut. Hein. Paul va avoir une réaction quand il écrit tout ça, et qu'il cite des noms. Il va avoir une réaction qui n'est autre que de repousser l'honneur, je dis bien, repousser l'honneur qui lui est fait, surtout, et ce qui l'irrite Paul, et c'est ce qui fait la motivation de son écrit, surtout parce que on l'oppose à ses compagnons d'œuvre. C'est ça le problème. Si on avait dit, ben Paul, c'est merveilleux, nous on t'a vraiment à cœur, tu es notre père spirituel, et c'était vrai. Mais c'est que ce qui lui déplaisait, c'est que quand il parlait de Paul, il parlait de l'autre qui était venu après, et de l'autre qui était venu encore après le deuxième, et ça faisait des comparaisons qui étaient, ah, c'était pas bon sous ça. Et les Corinthiens finissaient par se complaire à ce genre de discours, ils se complaisaient, et ça favorisait des critiques. Ça favorisait des dissensions, ça favorisait des comparaisons qui étaient des comparaisons superficielles et non pas en profondeur selon la vérité. Et c'était ça le problème. Certes, Paul était un homme remarquable parce que encore 2000 ans après, il est quand même une grande référence dans le Nouveau Testament, hein, ça c'est clair. Hein. Mais ce qu'il ne voulait pour rien au monde, c'était supplanter, je dis bien, supplanter ses collègues. Il ne faut pas dire que, voilà, que l'on dise que, eh bien, c'était le meilleur des meilleurs, c'était le champion hors concours, toute catégorie, enfin tout ce que vous voulez, comme ça on peut le dire de cette manière, si on veut. Ainsi, en écrivant ce que nous avons sous les yeux, Paul se défend-il d'une idée répandue qui courait dans l'église de Corinthe et qui faisait une force, une référence, c'est-à-dire l'attachement à être baptisé par tel ou tel. Eh oui, ah, vous savez. Moi, j'ai été baptisé par le pasteur, ou j'ai été baptisé par celui-ci et tout cela, mais avec ce passeport, moi, je vais au ciel, je suis couvert, hein, il n'y a aucun problème. Hein. L'estampille est une estampille hein, royale et divine, en quelque sorte. J'ai baptisé quand même quelques personnes dans les églises où je suis passé. Ne comptez pas trop sur finalement, que vous avez été baptisé par moi. Hein. Je ne suis qu'un intermédiaire. Et il faut pas dire, j'ai été baptisé, ceci et cela, etc. Et Paul ne voulait pas. D'ailleurs, de toute façon, il va trouver les raisons de dire le contraire. Hein. De se glorifier de ce que nous avons été baptisés par un pasteur, par un évangéliste, par un ministère. Et il l'explique, et nous l'avons lu tout à l'heure, il est dit, mais il est en train de repenser que c'était le slogan à Corinthe en disant, parce que j'ai été baptisé par Paul, bah Paul c'est le supérieur, c'est tout. Hein. Et il dira, mais Paul a-t-il été crucifié? Pour vous, ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Non, on était baptisé au nom de Jésus. Hein. Enfin, je crois que je me suis jamais trompé là jusqu'ici. Ça m'arrive de faire des bourdes, mais au nom de Jésus, non, au nom d'Alain. Bon, enfin, comme vous verrez dire ça, vous direz que c'est grave. Bon, alors, je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, à part Crispus et Gaius. Ah oui, je me souviens encore, il y avait la famille de Stéphana, et heureusement d'ailleurs. C'était pas des grands baptêmes, c'était pas des baptêmes de foule, hein, là. Vous rendez compte? 3-4 personnes. Il était resté quand même 2 ans et demi. Alors, quelquefois, quand on pleure en disant, mais il n'y a pas de baptême, il n'y a pas de baptême, regardez à Corinthe comment ça s'est passé. Après, il y a eu des baptêmes, après, il y a eu une église qui a été constituée. Mais, regardez, c'était pas la foule, et c'était Paul, hein. Il devait y avoir une prédication qui était autrement que, finalement, eh bien, la mienne, de toute façon. L'apôtre a souvent dû ramener ses auditeurs à l'équilibre. Quant à sa personne, et il dira dans 2 Corinthiens, je cite, et là je reviens à la version classique, « Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes !» Et vous connaissez ce texte. « C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous vous disons, vos serviteurs, à cause, tout simplement, de Jésus. Remettons les choses en place. » Un serviteur de Dieu doit être, première caractéristique, il doit être modeste et humble, comme celui qui a dit « je suis doux et humble de cœur ». Ça, c'est incontournable, on ne changera rien. Maintenant qu'il y en a qui veulent passer ses frontières, c'est leur, ça les regarde. Hein, parce que finalement, les comptes, ils les rendront pas forcément avec les hommes, ils les rendront avec le Seigneur. On ne doit pas faire d'ombre à Jésus-Christ, non? Parce qu'il est la lumière. Peut-on faire de l'ombre à la lumière? Alors, c'est le problème de l'attachement à l'homme. C'est ça la question. Tout le chapitre que nous avons vu, enfin le paragraphe, c'est ça, c'est l'attachement que nous avons à l'homme. Et je voudrais quand même vous dire que c'est bien d'avoir de l'attachement, mais il faut que ce soit un attachement d'inspiration spirituelle et non pas charnelle, sentimentale, affective, romantique et tout ce que vous voudrez. L'Église, elle n'est pas faite pour ça. On n'est pas un club, on n'est pas une association, on n'est pas, enfin association, on peut le dire, mais d'une autre manière. Alors, il y avait le problème de Paul qui se posait, il était le pionnier. Ensuite, certains diront, mais moi je suis d'Apollos. Ah, Apollos, qui est Apollos? À Corinthe, il y avait tout simplement aussi les tenants, les supporters d'un personnage qui s'appelait Apollos. Et Apollos, comme Paul, il était juif. C'était un juif d'origine, hein. Mais il y avait une particularité qui le distinguait encore des quatre autres, enfin des trois autres en tous les cas, c'est qu'il avait pour lui certaines, écoutez bien, certaines qualités naturelles. Ah oui, il était sous l'onction de Dieu. C'est un homme qui avait été choisi par Dieu, un homme qui avait des capacités, des talents, des mines à faire valoir, mais il avait aussi, eh bien, des capacités, qualités naturelles, qui le distinguait. Et qu'est-ce qui distinguait Apollos? Le texte nous le dit, hein. Il était très instruit. Bah, vous me direz, Paul, c'était pareil, hein. Paul était universitaire de Tarse, hein. Il était érudit, plus que cela. Et il était zélé pour les Écritures. Voilà. C'est un homme qui avait plongé ses regards, c'est un juif, et un très très précis, hein, d'une manière très attentive, et un homme, on pourrait dire aujourd'hui, c'est une sommité. Ça? C'était tout simplement, eh bien, la situation de Paul. Alors, on va voir un peu de la situation d'Apollos. Excusez-moi, je suis en train de bidouiller quelques petites choses parce que compte tenu de mon état, je suis obligé de mettre des penses bêtes. Hein. Alors, en ce qui concerne donc notre ami. Il était par-dessus tout, il était très éloquent, et il parlait bien, et on trouvait un certain enchantement à l'écouter. Ah oui, il y a des pasteurs de différents genres, hein, qui quelquefois n'ont pas le talent de l'érudition, d'abord la connaissance, et puis ensuite l'élocution. Mais ce qui caractérisait Apollos, c'était son élocution, il parlait bien. Et quand les gens l'écoutaient, ils se disaient « Oh, waouh, c'est quelque chose !» Vous restiez assis sur votre chaise, et là vous auriez pu passer des heures et des heures à l'écouter. Remarquez, il y en a un autre prophète de l'Ancien Testament, dans le livre d'Ézéchiel, quand les gens venaient l'écouter, parce que il avait véritablement eh bien, les talents d'un habile chanteur. On venait écouter sa voix parce qu'il avait une voix avec un timbre qui faisait qu'il saisissait les choses. Talent naturel, naturellement. Alors, nul doute, la prédication d'Apollos avait plus de valeur, disons plus d'intérêt, que celle d'un Paul qui avait un langage un petit peu lourd. Oui, parce que Paul le dit, il ne savait pas trop parler. Il était un peu comme Moïse, Paul. On serait surpris. Paul a été un homme qui a écrit d'une manière merveilleuse, divine même, nous pourrions dire. Mais par contre, il dira que, voilà, il ne savait pas toujours s'exprimer. On serait surpris d'entendre Paul prêcher, hein, avec peut-être des hésitations, avec il butait peut-être sur les mots et tout ça, mais... En ce qui concerne le deuxième qui est arrivé, donc Apollos à Corinthe, alors là, c'était le jour et la nuit, hein, dans l'élocution. Vous aimez bien entendre quand un différent pasteur parle, et vous savez juger, vous voyez bien s'ils sont à l'aise, s'ils ont quelquefois reçu un don particulier de la parole. Hein. Ça ne veut pas dire que le contraire, hein. Parce que celui qui peut-être parle avec plus de difficultés, c'est pas pour ça que l'esprit n'est pas là. Hein. Et quelquefois on a des surprises, parce que quelquefois celui qui a du mal à parler, eh bien, il est saisi par le Saint-Esprit, et là il peut dire des choses formidables. Maintenant, c'est la forme, c'est tout. C'est la forme. L'erreur des Corinthiens en la matière était de déconsidérer certains et de s'enthousiasmer pour l'autre. Peut-être que ce matin, quand vous êtes venu en disant « Oh, c'est encore Alain !» Enfin, moi, je prends la liberté de vous le dire parce que vous ne me le diriez pas. Mais moi, ça ne me gêne pas. Hein? On se connaît quand même. Hein? Ah, ben, quand ce sera l'autre, quand ce sera un... Et vous savez que on n'a jamais voulu, enfin moi je veux pas, mais bon, c'est pas. Mais je veux jamais afficher les prédicateurs qui passent, parce que je veux que ça soit pour tout le monde. Moi, je me considère parmi les anciens au milieu des anciens, vous comprenez? Et je ne veux pas qu'un prédicateur, eh bien là, soit mis à l'index ou peut-être jugé. Non, parce que moi, un frère ancien qui prêche, il peut faire mieux que moi. Ça, c'est pas un problème. Parce que ça ne dépend pas de lui, ça ne dépend pas de moi, ça dépend du Seigneur. Et ça, c'est important. Je parle franchement ce matin. Bon. Donc, c'était de déconsidérer l'un et de s'enthousiasmer pour l'autre. On y a un proverbe qui dit, hein, déshabiller Pierre pour habiller Paul. Enfin, bon. Donc, il y en a certains qui battaient des mains, ils étaient là. Oh, c'est formidable, ce matin, c'est celui-ci, on va passer un bon culte. Comment? Ouais. Et... ils se fondaient naturellement sur des apparences, enfin, sur des qualités apparentes au mépris de la parole. Parce que c'est pas l'homme qui compte, c'est la parole de Dieu. Quand nous venons dans une réunion, quand nous venons dans un culte, c'est pas l'homme, c'est la parole de Dieu qui est importante. C'est Dieu qui parle, qui du reste est en soi la finalité de nos rendez-vous. La parole de Dieu, mes frères et sœurs, souvenez-vous-en, demeure le but. Elle demeure l'objectif et le messager ne reste que le moyen ou l'agent de Dieu pour parler en son nom. C'est tout. Alors tant mieux s'il y a des Apollos parmi les pasteurs, les prédicateurs dans nos églises, dans notre église. Tant mieux s'il y a des hommes qui ont une érudition, une culture, qui sont capables de vous faire des messages en vous sortant, eh bien, en grec, en hébreu, etc., etc. Naturellement. Très bien, lorsque nous sommes à écouter bouche bée, parce que les mots et les expressions, le vocabulaire est un vocabulaire excellent. Très bien, quand nous avons quelqu'un qui a un débit facile et puis qui prêche la parole. La forme agréable, eh bien, ne fait qu'habiter la prédication, c'est tout. Elle ne vient que habiller et habiter la prédication, mais gardons-nous d'en perdre le fond. Ça, c'est la forme, c'est le fond. Le fond, c'est la parole, c'est ce que Dieu nous dit. Ailleurs, Paul le rappelle dans 1 Corinthiens 1:17, c'est pour annoncer l'évangile, hein. C'est pour annoncer l'évangile que Christ m'a envoyé, et sans cela, sans la sagesse du langage. Mais l'évangile, c'est une puissance de Dieu, d'esprit et de puissance. Et ça, c'est essentiel de le rappeler. Les Grecs, parce que les Corinthiens, ce sont des Grecs. Enfin, c'est le sont toujours. Les Grecs étaient très sensibles, par leur culture, à la beauté de la forme oratoire. D'ailleurs, toute... notre connaissance et toute notre culture même latine, enfin c'est grec, mais bon, latine aussi, hein, c'est finalement est sorti de l'apogée de la culture grecque, hein, grecque et romaine. Et on s'aperçoit que finalement il y a là un sens de la beauté, de l'élévation, mais tout ça c'est extérieur naturellement. Hein. Et c'est le culte de l'élégance. Eh oui, on pourrait peut-être dire cela. Mais Paul dira, mais afin que la croix de Christ ne soit pas vaine, parce qu'il ne faut pas anéantir le fond par des belles formes. Aujourd'hui, nous sommes dans une période d'évangélisme, marketing évangélique. Et on y met tout, hein, la couleur, hein, les formes. Il faut que ça soit véritablement accolé avec les goûts, les appréciations du monde d'aujourd'hui. Voilà. À tel point qu'on ne prêche plus la croix. Bon. Mais bon, après c'est autre chose. La prédication de la croix, je voudrais le rappeler, n'est pas faite pour flatter l'homme ni élever son orgueil. On le voit dans des grandes religions chrétiennes. Qu'est-ce que c'est pompeux? Qu'est-ce que c'est, là, finalement, majestueux, impérieux? Eh oui, mais bon, si finalement il n'y a rien à l'intérieur, ça sert à rien. Mais ça séduit, disons-le. Ça séduit certains. Donc, ce n'est pas fait pour flatter l'homme. Ce n'est pas fait pour caresser son orgueil et ses goûts distingués, qui va séduire la raison et l'intellect. Mais au contraire, l'évangile est prêché pour humilier l'homme. Attendez, je vais vous expliquer. Humilier l'homme, lui révéler sa misère, c'est bien ça, hein, parce qu'on ne serait pas là aujourd'hui, hein, et lui révéler sa perdition. C'est que l'évangile qui peut nous dire que nous sommes perdus, que nous sommes morts, d'accord. Et les hommes voulant sortir de ce créneau-là, de ce sillon-là, eh bien, je dirais, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Dixit Romain, toujours Paul, hein, naturellement. Le but ultime de toute vraie prédication est de conduire le pécheur à s'abaisser pour qu'ensuite Dieu le relève. Pas le contraire, hein. Celui qui s'élèvera sera abaissé, celui qui s'abaissera sera élevé. Donc, on a bien compris, la parole va nous contrir quelque part. Elle va nous amener à nous abaisser, à prendre conscience de ce que nous sommes rien, alors que l'homme pense qu'il est Dieu, et qu'ensuite Dieu le relève. Cela va servir à le faire mourir, attendez, j'ai aimé la suite, hein, à lui-même, parce que c'est pas Dieu qui va nous trucider, hein, il va pas, non, mais à nous-mêmes, mourir à nous-mêmes, dans notre vanité et dans nos illusions, pour qu'ensuite nous soyons régénérés, nous soyons vivifiés, et que dans les cieux nous soyons glorifiés. C'est ça l'évangile. C'est le contraire que tout discours qui encense et qui gonfle la poitrine des hommes et les leur donne d'être imbus de leur orgueil, de leur connaissance, de leur intelligence, de ceci et cela. C'est exactement le contraire. Mourir à nous-mêmes pour revivre. Et il ne peut y avoir de résurrection que s'il n'y a pas la mort avant. C'est la mort à soi-même, c'est ça. Hein. Et il ne faut pas perdre de vue que l'évangile est en ce sens. Eh bien, c'est rendre la croix vaine. Quand on va dans le sens contraire, c'est rabaisser le sacrifice de Jésus, c'est éteindre la puissance du Saint-Esprit et c'est s'établir sur de fausses bases. Et c'est bien comme cela qu'il y a eu cette corruption dans toutes les religions chrétiennes. Parce qu'on a détourné finalement le sens des choses. On a voulu donner de beaux discours, on a donné finalement de beaux orateurs, hein, de grands orateurs, de gens qui parlent bien, etc., en bourrant finalement la prédication avec de l'intellectualisme, de l'humanisme, et de tout ce que vous voudrez, de toutes sortes de sciences, etc., etc. Mais l'évangile, c'est un livre qui est très simple, et qui s'adresse au cœur, à la conscience et à l'esprit de l'âme. Sans détour. Et quand on veut, et Paul dira, mais à ce moment-là, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et aujourd'hui, mais qu'est-ce que le christianisme, s'il est dans un caractère religieux, il est vide, il est complètement sec. Et c'est pour ça que les gens s'en détournent, parce qu'ils disent, mais il n'y a plus rien dans tout ça. Il n'y a plus que les apparences, il n'y a plus que les formes. Oui, c'est éteindre la puissance de l'esprit. Alors à ce moment-là, les gens croient être sauvés, ils sont perdus. Et d'ailleurs, vous leur posez la question, est-ce que vous croyez que Dieu vous a pardonné vos péchés? Je ne sais pas. Est-ce que vous croyez que vous allez au ciel? Ah ben ça, peut-être qu'il y aura une petite place pour moi, hein, on ne sait pas, mais je ne sais pas. Vous rendez compte les angoisses? Alors que l'évangile, quand il est prêché comme il doit être prêché, c'est une puissance de Dieu qui convainc nos cœurs et qui nous donne d'avoir des assurances. Et si on a chanté comme on a chanté ce matin, c'est qu'on y croit, non? Vous avez fait comme ça, non? Ouais. En d'autres termes, c'est tromper les autres et c'est se tromper soi-même. Et ça, c'est véritablement la responsabilité du prédicateur. Hein. Que ceux qui apportent la parole seront jugés plus sévèrement. Hein. Faut faire attention. Les beaux mots, les prédications psychiques, émotionnelles, romanesques, frappent la sensibilité, créent un courant d'émotions, bouleversent les âmes, mais l'âme me laisse l'esprit stérile. Tout le côté humain est nourri, c'est vrai, mais l'esprit, alors lui, il ne produit rien du tout. Il reste infécond. Les beaux mots, ça c'était le problème que certains croyaient dans Apollos. Mais Apollos, lui, c'était un vrai. Mais par contre, on le considérait comme au-delà de ce qu'il devait être considéré. Parce que l'évangile, il atteint le fond des cœurs. Il renverse les consciences. Il fait pleurer sur les péchés. Et ce ne sont pas des mots, c'est une action de l'esprit. C'est la puissance de l'esprit qui agit. Et c'est comme ça qu'il y a des conversions. Pas des conversions d'apparence. Où on gratte un peu le vernis, on s'aperçoit que les gens ne sont pas convertis. Mais profondeur. Paul, le premier. Apollos, on a dit ce qu'il était. Et ça a un petit peu son caractère. Et certains disaient dans l'église de Corinthe, eh bien moi je suis de Céphas, c'est-à-dire de Pierre. Ah, Pierre c'est quelque chose. Et là on va voir encore un autre aspect. Paul, on l'a dit, Apollos. On pourrait dire que ceux qui disaient dans l'église de Corinthe qu'ils étaient de Pierre, on va traduire le mot, hein, Pierre directement, qu'ils étaient de Pierre, c'était en quelque sorte des inconditionnels de l'apôtre dont nous avons nommé, et dont la Bible nous est parlé, mais dans le sens positif, l'apôtre par excellence. Ben oui, c'était un des premiers qui a été choisi. C'est lui qui a suivi jusqu'à la fin, presque jusqu'à la fin, enfin bon, il est parti, il est revenu. Hein. L'apôtre par excellence, l'apôtre c'est... Pierre c'est quelqu'un, hein, naturellement, dans l'histoire. Et c'est une grande figure des temps apostoliques, Pierre, hein, naturellement. Vous savez que à Rome, il a encore ses supporters. Ça vous fait pas agir, non? Ah oui, il a encore ses supporters. Et il y avait trois catégories qui trouvaient ses affinités dans la personne de Pierre. D'abord, il y avait les judaïsants. Il était juif, hein, Pierre, naturellement. Juif de la, du monde populaire, on pourrait dire. Mais il était juif. Et il avait ses partisans, parmi naturellement les juifs devenus chrétiens, donc les juifs convertis, mais qui croyait devoir observer la loi de Moïse. Ah, Pierre, lui, en tant que les choses, quoi que ça le gênait quelquefois, c'est arrivé. Mais toujours est-il que là, il se disait, ah ben on a Pierre, c'est un juif, il est comme nous. Et c'est encore lui qui fait le pont entre le christianisme libérateur de l'évangile, et puis nous, notre culture judaïque. Donc il se trouvait bien avec ça en disant, ben voilà, on a en quelque sorte bien là un garant, un petit peu. D'ailleurs, il est appelé l'apôtre des Juifs. Hein, c'est comme ça qu'on le nomme. Et il représentait à ce parti-là, à leurs yeux, le compromis entre le Nouveau Testament, enfin l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ça les tranquillisait dans leur conscience. Une forme de légalisme dans la Nouvelle Alliance. Voilà, c'est un compromis. C'était alors que quand la Bible nous dit que de toute façon les choses anciennes sont passées, hein, ça c'est sûr. Hein. Le légalisme. Et puis, il y avait une deuxième catégorie qui était supporter de Pierre, c'est ceux qui ensuite s'attachaient à Pierre parce qu'il avait vu, parce qu'il avait parlé avec Jésus, parce qu'il avait vécu très très près de Jésus. Alors plus le personnage était représenté en disant, bah oui, hein, nous on est vraiment près de Jésus avec Pierre, hein. C'est lui, hein, c'est pas un autre. Hein. C'est une façon de penser, hein, naturellement. Même à une certaine limite, tout le monde pensait que Pierre était le bras droit de Jésus. Ouais. À côté de lui, finalement, le géant qui était Pierre, eh bien, celui qui était capable de marcher sur les eaux du lac, vous comprenez, parce que l'histoire a couru, hein. Celui qui était capable, finalement, de contempler au moment de la transfiguration le Seigneur sur la haute montagne, vous vous rendez compte quelle référence, hein, quand il devait en parler dans ses prédications, les gens ils disaient, mais, waouh, c'est un saint, hein. Ah oui, c'est un homme extraordinaire. Alors, à côté de Pierre et ceux qui étaient ses tenants, Paul et Apollos faisaient figure d'apprentis apôtres. Oui, en formation, en quelque sorte. Hein. On pourrait dire, si vous voulez que je résume, que Pierre était l'institution évangélique, apostolique et pentecôtiste. Ça vous va? Oui, oui. C'est tout simplement... E-A-P. Oui, pentecôtiste. Pierre satisfait fort bien les traditionalistes à ce moment-là. Comprenez? C'est l'alliance entre les uns et les autres, alors on ne change pas. Voilà, hein, la tradition. Enfin, ce qu'était Paul à l'intelligence spirituelle, c'est comme ça qu'on peut dire pour la première version que nous avons eue. Ce qu'était Apollos à l'éloquence, Pierre l'était au tempérament, à la fougue, à l'ardeur de la prédication. On le voit dans les évangiles, il court toujours le premier. Et quelquefois, il prend des portes fermées. Hein. Il est toujours le premier à répondre, il est toujours posé, le premier à partir, à ceci, et de dire à Jésus, on va faire ceci, etc., etc. C'est l'ardeur, c'est la vigueur, c'est la force, en quelque sorte, apparente. Remarquez, vous savez qu'il a pris une sacrée leçon un jour, hein. Jamais je ne te renierai. Waouh! On s'aperçoit comment ça s'est terminé. Alors on aimait écouter Pierre, car la parole avait du souffle, elle avait des bras, elle avait des jambes. Je voudrais vous dire que l'histoire continue avec nos évangélistes. Hein. Alors peut-être que vous ennuyez avec moi parce que je suis pas comme ça, je peux pas. Parce que je suis pas comme ça, c'est tout. Hein. Si on avait un pasteur là, il arrive sur l'estrade, il marche de droite, de gauche, et puis il va dans les rangs, il impose les mains aux gens, il saute par-dessus les chaises, je l'ai vu, hein. Pas moi, mais je l'ai vu, j'ai pas fait, mais en tous les cas je l'ai vu, en disant, ils soufflent, les gens ils sont complètement, ils se demandent dans quel état ils sont quand ils sortent. On a vu ça, n'est-ce pas? Ça, ce sont les tenants de Pierre. On aimerait avoir un évangéliste où là, il fait remonter la température de la salle, mais on est à 50-60 degrés, hein. Vous souriez? Quelquefois, il y en a qui ont cette nostalgie ou qui ont... Ah, c'est, on s'ennuie dans cette église, vous vous rendez compte? Wow, on s'endort pendant les prédications. Enfin, je suis désolé hein, si je vous endors, mais bon, je ne peux rien. C'est la Pentecôte qui continue avec Pierre, naturellement. Les réunions qui bougent, les réunions qui vibrent, les réunions qui explosent. Et alléluia, alléluia, on n'entend plus le prédicateur. On a connu ça un certain temps. Hein. Quelquefois, on a entendu... Ça gêne quelquefois les prédicateurs. Quand on va dans une église où on a l'habitude de dire alléluia, amen, alléluia, amen à chaque mot, je peux vous dire que le prédicateur, il n'y a plus rien. Il n'a plus la place de dire quelque chose. Vous l'avez pas connu, ça? Oui, peu importe. Je voudrais simplement vous dire que Dieu parle par la bouche de ses serviteurs aussi exubérants. Moi, j'y crois. On a connu des évangélistes, parce que l'évangéliste, c'est quand même un cas à part, hein. Entre un pasteur, un évangéliste et un docteur, c'est deux choses, trois dimensions différentes, hein. Le docteur, lui, il va s'asseoir, il va vous apporter des messages de profondeur, des choses difficiles à comprendre, mais il va les rendre simples. Mais là, faut de la patience, hein. Ce sont des études. Le pasteur, bah, lui, c'est un berger, hein. Il marche avec le troupeau. Tout simplement. Il fait rien d'extraordinaire, le pasteur. Mais l'évangéliste, il est là, il est ici, il va d'une église, d'une ville à une autre, etc., etc. Et vaut mieux pas qu'il reste trop longtemps, parce que finalement, ça chauffe de trop. Hein. Il n'y a pas de thermostat là-dessus. Donc, il y a des serviteurs exubérants, mais tout autant des prédications calmes et paisibles. Alors peut-être que vous êtes de ceux qui ne voulaient pas que ça bouge de trop quand même, hein, qu'on monte sur les chaises, etc., etc. Vous savez, quand Dieu a parlé à Élie, il lui a pas parlé à travers le tonnerre. Il lui a pas parlé à travers les éclairs. Il lui a pas parlé à travers le souffle de vent. Il lui a parlé à travers un souffle, un murmure doux et léger. Et il y a tout dans l'église. C'est pour ça qu'il ne faut pas juger et avoir des chouchous, des favoritismes. Non, il y en a pour tout le monde. Pour tout le monde, et merci Seigneur. Vous savez comment l'évangéliste Matthieu nous présente Jésus dans le chapitre 12? Jésus ne criera pas, ne fera point entendre sa voix dans les rues, et il n'avait ni beauté ni éclat. Alors que ce soit dans la parole ou que ce soit dans les apparences, Jésus est passé comme un simple homme au milieu de son peuple, au milieu du monde encore aujourd'hui, et c'est pas parce que c'est des choses extérieures qui ont attiré les hommes à se convertir. Non. Dieu se sert des uns et des autres, et moi je dis merci pour un Paul. La révélation spirituelle. Merci pour un Apollos, parce que c'est quelqu'un qui connaît et qui parle bien. Merci pour un Pierre, parce qu'il a du souffle. D'accord? Il y en a pour tout le monde. Pour revenir à Pierre, les adeptes des réunions qui chauffent. Vous savez, il y a eu des courants qui sont passés, qui ont même divisé les églises, et c'est ça le grand problème, et c'est le sujet dont nous discutons ce matin. Les adeptes des réunions qui chauffent, mais elles chauffent non pas spirituellement, frères et sœurs, et là je suis catégorique, elle chauffe psychiquement. C'est du psychisme. Et le psychisme, c'est quoi? C'est pas l'esprit. Le psychisme, c'est l'âme. L'âme humaine. C'est la chair. Alors, quelquefois, ça peut étonner. Alors, que ça étonne des nouveaux convertis quand ils sont plongés un peu dans ce genre de marmite, ça se comprend. Mais que des anciens qui ont 30 ans, 40 ans, 20 ans de conversion sont encore à courir après un bonhomme, oui, un bon, hein, parce qu'ils prêchent bien, ils vont ici, etc., etc. Bah alors, à ce moment-là, autant aller à Lourdes, à Fatima et tout ce que vous voudrez, parce que vous faites exactement le même chemin. C'est la chair, c'est pas l'esprit, naturellement. Et on a vu quelquefois les gens qui viennent, qui courent comme ça, de droite et de gauche, dans des réunions évangéliques, et ils font une expérience extraordinaire. À un moment donné, on leur impose les mains, et pof, ils tombent. Est-ce que ce ne serait pas un présage d'une autre chute? Parce que Jésus n'a jamais fait tomber les gens, hein. Il les a relevés. Pour terminer, parce que je pense que vous en avez assez ce matin. Les plus spirituels en apparence, je dis bien, c'est pour ça que les plus spirituels en apparence se réclamaient avec une belle fierté. Et moi, je suis de Christ. Ah, voilà. Vous dites, ah ben voilà, au moins ce sont les bons ceux-là. Eh ben ce sont pas les bons, ce sont les mauvais. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que nous sommes chrétiens. Et nous le sommes. On n'a pas besoin de crier devant tout le monde. Je suis de Christ. En fait, je voudrais quand même vous dire que ce sont les plus orgueilleux et ce sont les plus dangereux. C'est un peu la méthode des pharisiens. Les pharisiens disaient « Jéhovah, Yahvé, le Dieu d'Israël, c'est nous, il n'y a que nous ». Et ils s'étaient mis là finalement au pinacle. Et il n'y avait qu'eux qui finalement, ils le pensaient en tous les cas. C'est cet esprit de supériorité dans les églises, dans l'église de Corinthe, et de mépris, écoutez bien, et de mépris pour tout ce que Dieu a institué, à commencer par l'Église. Nous, on n'a pas besoin d'Église, hein. Moi, je peux faire ma vie spirituelle, dans ma maison. Je peux faire ma vie tout seul, je suis assez grand. L'Église, elle a été faite pour que... C'est pas elle qui nous sauve, l'Église, mais elle a été faite pour contribuer à notre édification, et à ce que nous puissions aussi nous sanctifier les uns et les autres. Et il y a la parole, l'Église, elle est importante. L'Église, elle nous renouvelle et elle nous rassemble autour du repas de Sainte-Seine les uns et les autres, et tous les dimanches. Donc ça, c'est l'Église. Ils se disaient, moi, l'Église, j'en ai rien à faire. Hein. J'en sais plus que le pasteur. Bon, c'est très bien. Les ministères, on n'a pas besoin de ministères. Moi, je peux prêcher. Moi, je peux faire ceci et cela. Donc, pas besoin de ministère. Et la communion fraternelle. Elle est bonne, la communion fraternelle. Elle est bonne en tout temps, la communion fraternelle. Et je voudrais vous dire, elle est encore meilleure quand on passe par des épreuves et qu'on sent qu'on n'est pas tout seul. Quand vous avez des frères et des sœurs qui vous encouragent, qui prient pour vous, qui sont là à vous soutenir, et qui pleurent aussi pour votre... C'est dans l'Église qu'on le trouve, hein. C'est pas dans le monde. Hein. Ces gens-là avaient la prétention d'être en possession exclusive de la vérité. C'était les pharisiens, en quelque sorte. Pharisiens chrétiens. Ils étaient en direct avec Dieu. Il n'y a pas besoin d'écouter ou de lire la Bible. Ils se disaient, moi j'ai une vision, j'ai une relation, une révélation, etc., ouais, ça me suffit, hein. Moi, le Seigneur me parle, voilà, tout simplement, le direct avec Dieu, et en vertical unique, hein, tout simplement, hein. Il n'y avait pas d'horizontalité, hein. Et ils avaient pratiquement, je voudrais vous dire, ça c'est la surprise, ces gens-là avaient pratiquement jamais de problème avec Paul, avec Apollos et Pierre et tous les autres. Et je vais vous donner pour une simple raison, c'est qu'ils les ignoraient royalement. Si je voulais être un petit peu trivial, je dirais il se foutait des autres. Paul, il dérangeait pas. Qu'est-ce que Paul? Apollos, bon, il parle bien, mais finalement. Et puis Pierre. Donc il avait jamais de problème. Ces gens-là, ils avaient jamais de problème avec les apôtres, parce que il les ignorait complètement, tout simplement. C'était des francs-tireurs en quelque sorte. La conclusion, on va la tirer ici, dans 1 Corinthiens chapitre 3. On va reprendre ça un peu pour terminer. Hein. Alors, 1 Corinthiens chapitre 3 et au verset 3 à 9. Voilà ce que nous lisons. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit « Moi, je suis de Paul », et un autre dis-moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon ce que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, on l'a lu, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître, c'est Dieu qui fait croître, c'est Dieu qui fait croître, c'est Dieu qui donne la vie. En sorte que ce n'est pas celui qui plante ou qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais c'est Dieu qui fait croître, celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Différents dans les formes, mais dans l'action, dans les formes et dans l'action, mais de même nature, des hommes, appelés par Dieu, tout simplement. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Et au verset 21, que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes. Car tout est à vous. Soit Paul est à vous. Apollos est à vous. Céphas est à vous. Alain est à vous. Pardon? Ah, j'ai pas vu. Soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit la chose présente, soit les choses à venir. Tout est à vous. Et vous, vous êtes à Christ. Et Christ est à Dieu. Vous vous rendez compte? Moi, je trouve que c'est formidable, ça. Merci, Seigneur! Ah oui! Pourquoi cette distinction? Pourquoi faisons-nous des distinctions? Serviteur au service d'un maître unique et commun. Dieu est large en esprit. Comment gère-t-il ses ouvriers? Comment gère-t-il un petit peu là tout ce qui se passe dans les églises? Eh oui, il sait que peut-être dans telle église il faudra tel personnel, telle personnalité de ministère, il faudra que dans une autre, ça soit autre chose. C'est pour ça que les nominations de pasteurs, ou enfin en tous les cas, les choix des pasteurs, faut que ça soit Dieu qui choisisse. Faut pas que ce soit les hommes, hein, parce que vous pouvez avoir des surprises à ce moment-là. Et nous avons besoin de prier, et c'est vraiment l'heure de prier aujourd'hui pour le choix des pasteurs. Hein. D'ailleurs, on n'a pas beaucoup. Enfin, le Seigneur sait. Hein. Et oui, nous en avons besoin, Dieu est large dans l'esprit. Et dans l'histoire biblique, et je finirai, Dieu s'est servi de la prédication silencieuse et patiente d'un Noé. Parce qu'il n'y avait pas grand monde qui voulait l'écouter, hein. Silencieuse, patiente d'un Noé. Du ton péremptoire et sentencieux d'un Moïse, hein. Il avait quand même du volume, hein, Moïse, hein. Et pourtant, il nous est dit qu'il était l'homme le plus doux et le plus patient de la terre. Dieu s'est servi d'un message patriotique d'une Déborah, une femme, vous vous rendez compte? Eh oui! Allez, nous allons, et au nom de l'Éternel, nous remportons la victoire. Ça, dans le livre des juges. Dieu s'est servi du témoignage tout simple d'une petite fille esclave qui a rendu témoignage à son maître. Eh oui, elle a pas crié, t'as la lèpre, c'est bien fait pour toi. Non, si tu connaissais le prophète qui est dans mon pays, eh bien, Dieu te guérirait. Dieu s'est servi admirablement du poétisme d'un David, ce qui nous fait tellement de bien. Faudra-t-il avoir un peu l'homme poète, mais... Il nous fait du bien, David, à travers ses psaumes, à travers, finalement, eh bien, sa prédication. Il s'est servi des larmes et supplications d'un Osée, prophète Osée, vous en souvenez, qui va écrire, qui va parler comme un amoureux et conduit. Hein, c'était pas une situation facile. Il s'est servi de la sensibilité douloureuse d'un Jérémie. Eh oui. Il s'est servi de même de l'esprit méthodique d'un Luc pour écrire son évangile, parce que c'est quand même l'évangile d'histoire, de connaissance historique, hein, Luc. Il s'est servi également de la tendresse d'un Jean qui s'est penché. Et c'est l'apôtre de l'amour, tendresse d'un Jean. Dieu s'est servi de la parole claire d'un Apollos, on l'a dit. Il s'est servi de l'impétuosité d'un Pierre. Il s'est servi finalement de cette révélation extraordinaire et formidable d'un Paul, etc., etc. Et l'exhortation préventive, ne disons jamais, ne disons pas dans le futur, moi je suis d'eux, moi j'appartiens à Jésus-Christ et il est mon sauveur et mon Seigneur, il est l'autorité de ma foi, tout simplement, et sa parole est la vérité. Ça c'est important. Dans Philippiens, dernière parole, Paul dira à l'église de Philippe, ne faites rien par esprit de parti et de vaine gloire. Que le nom de Jésus soit glorifié ce matin et lui seul. Jésus est sauveur, il est Seigneur. Les hommes ne sont que des hommes serviteurs et que nous devons, nous, dans notre place, eh bien, mettre en avant la personne glorieuse de Jésus-Christ. On prie quelques instants, si vous voulez. Seigneur, je veux te rendre grâce et je veux te remercier. Et la première chose que moi je veux te demander, et que nous voulons nous associer en Église pour te le demander, Seigneur, garde-moi dans la modestie et la simplicité. Donne-nous les uns et les autres de ne pas voir les hommes comme s'ils étaient dieux, ou d'en faire des demi-dieux, ou d'en faire une source d'idolâtrie. Seigneur, dans ta bonté, merci parce que nous croyons que ce que nous avons entendu ce matin, c'est une leçon d'équilibre. C'est vrai que nous devons nous aimer les uns les autres, ta parole le dit, de respecter ceux qui sont élevés en responsabilité, ça c'est normal, que ce soit dans le monde ou dans l'Église, mais pas dépasser les limites, Seigneur. Moi, je ne veux pas prendre la place de Jésus et je ne veux pas que le peu que j'ai, eh bien, devienne une ombre sur la révélation glorieuse de notre Sauveur à tous. Nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que nous voulons croire, Père éternel, qu'il y a cette belle parole de Jean-Baptiste. Il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Seigneur, permets, Père éternel, que chacun d'entre nous, nous voulons voir Jésus croître. Celui qui a dit « Christ vit en moi », alors à ce moment-là, que Jésus croisse dans l'Église, il croisse dans chacune de nos vies, et que moi, je diminue. Et nous te remercions et nous te bénissons. Bénis mes frères et mes sœurs. Bénis peut-être pour ceux qui ont tendance à aller dans un sens ou dans un autre. Et donne-leur, Seigneur, de se focaliser, de s'enraciner, d'ancrer leur vie sur la personne de Jésus. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.